Bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 10h01 à la pendule de Radio Canu. Et comme tous les dimanches de 10h à midi, c'est l'émission Musique, etc. qui débute. Musique, etc. Une émission musicale de Radio Canu que vous pouvez retrouver en podcast sur les blogs de Radio Canu et la rubrique Musique, etc. À noter également qu'il y a une page Facebook de l'émission qui s'intitule Radio Canu Musique, etc. Et puis pour les émissions les plus récentes, vous les retrouvez également sur les audio blog d'Arte, à Musique, etc. également, et Musique, etc. ça s'écrit MUSIK-ETC. Voilà pour les podcasts, les informations au sujet de l'émission. En direct de 10h à midi tous les dimanches. Dans la première heure, dans la première partie de l'émission, j'accueille le groupe Needle. Alors je vais faire la présentation. De ma gauche à ma droite, il y a Pierre qui est à la guitare et aux voix secondaires. Il y a Hugo le bassiste, il y a Dorian le chanteur et guitariste, et donc il y a un absent que je salue qui est Maxime le batteur qui n'est pas là aujourd'hui. Donc Needle, bonjour et bienvenue à Radio Canu.
Bonjour.
Bonjour.
Tout au long de l'émission, dans une grande partie de l'émission, on va écouter des titres inédits, me semble, d'un disque qui est à sortir.
Tout à fait.
Mais avant, peut-être commencer par une présentation, un historique du groupe. Ça fait combien de temps que le groupe existe? Comment vous êtes rencontrés tous les trois, tous les quatre? Parce qu'il y a, donc, je rappelle qu'il y a un absent, que le batteur n'est pas présent. Une histoire de Needle qui se lance.
On s'est tous rencontrés fin 2018, fac de musicologie, si je dis pas de bêtises. Enfin,
c'est ça.
Ouais, voilà. On est tous pas de Lyon.
On est des alentours.
Ouais, voilà. Toi, t'es de Dorient et de l'Arbrel. Maxime, qui est absent, est de Saint-Étienne. Pierre est de Crémieux, ça.
Ouais, vers Bourgoin-Jallieu, on va dire.
Et moi, je viens de Roanne.
D'accord.
Du coup. Et on s'est tous rencontrés en études sup.
Et en musicologie, comment dire, qu'est-ce qu'on apprend, par curiosité?
C'est une licence qui ouvre sur des études qui permettent de faire prof de musique au collège, où il y avait un master pour faire de la musique à l'image dans les films, tout ça. Pour créer la musique de... Enfin, la bande-son de films et de vidéos, en général.
Voilà, pour être un tout petit peu plus spécifique, en fait, ça sert surtout à être musicologue plutôt que musicien. Soit on peut faire de la recherche en musicologie, soit on peut justement passer le CAPES et être dans l'éducation nationale. Le Master MAF, c'est un peu... Il me semble que c'est un peu une exclusivité en France, et ça sert vraiment à composer, à être compositeur de musique de film, musique à l'image, contemporaine aussi, et voilà. Ceci dit, le groupe Needle s'est formé 3 ans après qu'on se rencontre en musicologie. Ça a démarré en 2021, tout simplement quand moi j'étais un peu en galère de logement à Lyon, et il fallait que je reste à Lyon, et j'ai commencé à crêcher chez Dorian. Et Dorian avait déjà réfléchi pas mal de temps sur des compos et des projets solo à lui, et on a commencé à monter ça ensemble.
Voilà. Et du coup, en rentrant à l'ENM, donc on a profité des locaux de l'école de l'ENM à Villeurbanne pour commencer à répéter ensemble et à produire en fait toute la suite, donc les concerts, etc. qu'on a fait durant toutes ces années.
Et là, je vais pas vous embêter sans arrêt sur les études, mais c'est juste par curiosité. Et à l'ENM, qu'est-ce qu'on apprend?
Alors à l'ENM, on apprend à faire de la musique, c'est-à-dire que pour le coup, on a notre instrument, notre prof, et on pratique.
Voilà, et l'ENM se revendique un peu comme l'anti-conservatoire, dans le sens où elle est très réputée pour son département des musiques actuelles, musique amplifiée. Et donc, il n'y a pas forcément de cours de théorie dans ces départements-là. C'est vraiment sur rencontrer des gens, comment se débrouiller dans le monde de la musique, la pratique collective, tout ça, comment développer un projet surtout. C'est leurs grandes ambitions pour les artistes. Et donc, du coup, à préciser que maintenant, jusqu'à maintenant, on était tous les quatre à l'ENM. Maxime est parti, il a fini ses études à l'ENM, il a passé son diplôme d'études musicales l'année dernière. Mais là, on est tous les trois à l'ENM encore.
On peut dire que l'ENM, ça favorise, ça vous a pu aider dans la vie du groupe que musicologie, par exemple.
Oui,
beaucoup plus.
Le jour et la nuit.
Après, respect à la musicologie, parce qu'on ne serait jamais rencontré sans aussi.
Ouais. Enfin, voilà. C'est sûr.
Ça nous apporte. Enfin, Moi, à titre personnel, ça m'a apporté de fou. Hein. Enfin, les deux.
Alors, vous avez sorti un premier disque il y a quelque temps. C'était en 2021, il me semble, non ?
C'est ça,
Le premier disque qui s'appelle Needle aussi, qui était un album, un disque homonyme au nom du groupe.
C'est ça.
Et donc, et donc là, vous avez un projet à sortir.
C'est ça.
Vous voulez le présenter ? Est-ce qu'on va écouter là dans quelques instants ?
Ouais. Alors, ce projet, du coup, donc c'est tout neuf. On a enregistré ça l'année dernière à Studio 8PM à côté de Croix-Paquet. Et on a fait masteriser ça à Paper Street Studio à Masséna. Donc grosse dédicace à eux parce qu'ils ont fait un taf de fou. Et donc aujourd'hui, là, on est en train de préparer un super clip pour la sortie de cette EP. Et voilà, ça commence tout juste.
Le clip, vous avez une date de sortie de prévue ou c'est pas...
Alors pour l'instant, on a prévu de sortir ça à la rentrée de septembre. Voilà, donc en fonction de comment ça se déroule, on espère être dans les temps. Et voilà, donc là on fait ça doucement mais sûrement.
Et vous allez sortir le disque et le clip en même temps, c'est ça, en septembre ou début septembre en fait ?
C'est ça, enfin ça va être espacé sur septembre, octobre, novembre.
D'accord, vous allez sortir des singles.
C'est ça, on va sortir plutôt des singles, on va essayer aussi de faire des live sessions, d'enregistrer des live sessions, et pour pouvoir diffuser ça le maximum et proposer un maximum de contenu aussi pour les réseaux sociaux, pour que tout le monde puisse regarder.
Et pour votre style, le style de Needle, on parlera de quoi ?
Eh bien, ça part du grunge, grosse influence Nirvana, toute la scène années 90, grunge, metal et punk.
Le mieux, c'est sans doute d'écouter un premier titre, donc c'est le premier titre du disque à sortir. Je l'envoie, puis on l'évoque ensuite. Donc c'est Needle sur Radio Canu. Sur Radio Canu, donc sur leur disque à sortir, c'était le titre
Before.
On peut évoquer ce morceau, pourquoi l'avoir. Donc il va ouvrir le nouveau disque, c'est dans.
Oui.
De quoi ça parle et comment vous l'avez mis en place sur un plan musical, comment vous avez travaillé pour faire. Comment est né le morceau en fait
Alors, pour le sujet du morceau, donc. Ici, ça parle de comment retourner son lieu de vie habituel. Donc, par exemple, ça peut être un lieu d'enfance où il y a la famille, etc. Après de nombreuses années, par exemple. Et en fait, au bout de ces années-là, le corps a changé, le visage a changé, le caractère a changé. Et donc la question, c'est de savoir si les gens avec qui on a grandi sont toujours là ou s'ils vont nous reconnaître. Voilà. C'est un peu le sujet de ce morceau. Et donc sur le process de comment on a composé ça. Donc en fait c'est un peu dans la globalité, j'ai proposé une maquette à Pierre, Maxime et Hugo. Et à force de répéter, on a fait les arrangements ensemble. Et voilà, c'est plutôt rapide en vrai comme manière de procéder, mais la globalité du morceau est déjà proposée en amont.
Voilà, c'est ça. De manière générale, en fait, pour la grande majorité des morceaux de Needle, on a toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire que Dorian c'est la source un peu de composition et d'ambiance des morceaux, et nous on fait vraiment plus un travail d'arrangement après, et ce qui marche plutôt bien parce qu'en fait le style est défini par Dorian, mais nous on vient d'univers musical relativement différent tous les quatre. Donc Dorian c'est vraiment tout ce qui est grunge, metal des années 90, tout ce qui est Alice in Chains, Soundgarden, les choses comme ça. Moi je viens plutôt d'une sphère plus metal à la base, en tout cas guitaristiquement, donc avec des choses beaucoup plus aseptisées, produites, saccadées, des choses comme ça. Hugo a quand même aussi pas mal écouté le metal, mais il vient aussi de la funk, donc ça apporte aussi quelque chose de différent. Et Maxime est plus vraiment rock français, style M, des choses comme ça, quoi. Donc le travail d'arrangement vient apporter une sorte de mélange un petit peu éclectique, mais qui apporte sa petite touche d'originalité.
Et ça fait faire un pas de côté en fait à la création influencée qui est guidée par les influences de Dorian, du coup.
C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais.
Vous parlez de vos influences références, on peut faire un tour de table, dire ce que, rentrer plus en détail dans ce que vous avez écouté, que ce soit dans le grunge ou dans le metal ou dans le funk, chacun, dans quoi vous avez baigné en tant qu'auditeur et musicien, quoi. Citer des noms d'artistes de groupe, quoi, qui se lancent, Dorian peut-être.
Oui, bien sûr. Alors, du coup, j'ai été énormément influencé par Nirvana, parce que c'est aussi. Le style et le groupe avec lequel j'ai appris à vraiment jouer de la guitare en regardant des lives, en écoutant tous les titres, tout ce qui est B-side, les outtakes de studio, voilà, c'est grosse influence. En termes de musicalité, ça serait plutôt parti sur du Soundgarden ou du Alice in Chains, comme disait Pierre. Parce que la rythmique, parce que les accords, le chant, etc. C'est des énormes influences. Mais c'est vrai que Nirvana prend le dessus très souvent. Et après, je m'intéresse aussi à d'autres choses. Il peut y avoir pour le métal, Deftones est une grosse influence aussi. Voilà, parce que la rythmique, parce que c'est lourd et. C'est un son qui est très très poussé, très musclé, donc ça c'est bien mon style, quoi, en termes de sonorité. Voilà, moi je suis beaucoup là-dedans.
Et juste, tu as un regard particulier ou un avis sur la trajectoire de vie de Kurt Cobain, ou vraiment tu te contentes d'écouter leur musique, quoi?
Je me contente d'écouter la musique. Ouais. Je me laisse pas influencer par le caractère de quelqu'un. Non.
D'accord.
Quand même.
Alors,
Pierre, donc.
De mon côté, du point de vue de mon instrument, les deux groupes qui m'ont vraiment forgé de mon enfance, vraiment du début de mon enfance à mon adolescence, c'est Didi Top et AC/DC. Voilà. Et même si aujourd'hui j'écoute des trucs qui sont pas mal plus violents et modernes que ça, dans ma manière de jouer, dans ma manière de ressentir les choses, Le jeu de guitare du guitariste de ZZ Top, Billy Gibbons, et de Malcolm Young m'influence toujours, quoi, que ce soit dans l'esthétique. Voilà, après, il y a des choses beaucoup plus modernes qui sont arrivées.
Et juste ZZ Top, tu aimes tout, même ce qu'ils ont fait plus avant dans leur carrière?
Ouais, j'ai écouté même ce qu'ils font dans les années 70 et maintenant. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont évolué dans plein de styles différents. Et donc maintenant, je suis plus sur des groupes comme Ginger, Lamb of God, voilà, des choses comme ça.
Donc, Hugo
Moi, de mon côté, mon rapport à la musique, surtout, il vient de ma famille, parce que je suis le dernier d'une fratrie, et ils ont tous grandi, ils ont tous vécu leur adolescence dans les années 90. Donc je pense aussi, ça c'est un truc, je viens de m'en rendre compte en fait, mais c'est peut-être pour ça que je suis sensible aussi, tu vois, à ton univers, Dorian. Mais en fait, tout ce qui se faisait dans les années 90, ils écoutaient à fond, mes frères et sœurs, et j'ai grandi avec ça. Et il y avait beaucoup de... personnellement, pour la basse et la musique, ce qui m'a influencé en premier, c'est surtout les morceaux... que j'aimais quand j'étais petit, et que quand je me suis mis à faire de la musique, je me suis dit, ah, en fait, j'adorais ça quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup, et j'aime toujours d'ailleurs, Jamiroquai, Michael Jackson, Prince. Je pense que c'est les artistes qui m'ont le plus influencé à la basse. Après, en parlant du son 90 aussi, je sais que chez moi, ils aimaient beaucoup AC/DC et Rage Against the Machine. Et c'est vraiment les groupes... qui m'ont mis dans l'oreille tôt le son du rock, et qui font peut-être que j'aime ça aujourd'hui. Et à force de traîner, de côtoyer Dorian et les gens de l'ENM qui sont plus tournés, surtout en musique actuelle dans le rock, on se fait une culture musicale différente. Et là, récemment, les groupes que je kiffe, qu'on m'a fait découvrir, c'est Turnstile, qui font de la pop-punk,
si on peut dire, ouais. Plutôt punk hardcore à la base, et c'est parti sur un truc un peu plus radio.
Pop punk, parce que ça, c'est le punk qui a marché de fou, je trouve. Il y a plein d'influences dans leur musique qui est très cool. J'aime beaucoup Royal Blood aussi au niveau du son. C'est juste un bassiste et un batteur, et c'est fantastique. Il y a comment. Cléopatrick aussi dans le rock. Je sais pas s'ils sont américains ou anglais. Ils ont un gros son aussi, et c'est incroyable.
Ok, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Bon, on revient à Needle, on écoute le deuxième titre du disque à sortir. Vous avez le titre du nouveau disque?
Oui.
Il va s'appeler comment
Il va s'appeler Crash.
D'accord. Donc Needle sur Radio Canu.
Trouble on the right and the left, finally know why.
Needle sur Radio Canut dans musique, etc. avec le titre
Further.
Vous voulez évoquer le morceau qu'on vient d'écouter?
Eh bien, celui-là, il parle plutôt de comment dire. C'est recouvrir d'une addiction, en gros. Parce qu'en fait, quand j'écris, moi, ça passe très vite dans la tête, donc je réfléchis pas forcément tout de suite au sens. Mais là, pour celui-là, ça serait ouais, il y a une addiction qu'on essaye d'éradiquer, et en fait, on se rend compte que le travail est peut-être un petit peu plus difficile que ça, et donc c'est voilà, c'est ça parle de faire le travail sur soi-même et de se rendre compte de qu'il faut faire plus d'efforts, en fait.
Et dans la composition, les textes, tu interviennes comment? Tu arrives à quel moment tu commences par écrire des textes?
Alors, du fait que pour moi c'est très très compliqué d'écrire de manière, comment dire, genre d'avoir beaucoup d'inspiration à l'écrit, je commence souvent d'abord par composer. Et c'est la musique après qui peut m'inspirer, ou alors c'est des trucs que je peux lire comme ça. Genre ça me passe sous les yeux, il y a un mot qui m'inspire, du coup je l'utilise. Voilà, là pour le coup c'était aller plus loin, et du coup j'ai essayé de développer le sujet comme je l'entendais. Donc ouais, l'écriture du texte vient pour moi après la composition.
Sur ce morceau-ci, Hugo et Pierre, vous voulez évoquer votre partie musicale à chacun?
C'est ma ligne de basse préférée, je pense, du projet qu'on a enregistré. Non, très très cool. Moi, j'ai bien kiffé l'enregistrer comment au studio. Enfin, carré. Et je pense que c'est celle qui me, ouais, c'est celle du projet que je préfère, et genre qui me fait vraiment penser à du Turnstyle. Et ça, je kiffe.
Et quant à moi, je pense qu'aussi qu'elle tient une place particulière, parce que, alors, je vais revenir à AC/DC, mais en gros, le principe un peu de ce groupe, c'est qu'il y a deux guitares qui jouent des riffs qui sont identiques, à quelque chose près, mais l'esthétique sonore de Angus est complètement différente que celle de Malcolm. Et c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement retrouver dans Needle, c'est-à-dire qu'au niveau du son de guitare d'Orient, on est sur quelque chose avec des distorsions hyper anarchiques, hyper crades, dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment, mais et donc avec énormément de gains, une manière de jouer hyper violente. Et moi, déjà, je joue sur une guitare qui est, on appelle ça une guitare baryton. Et donc c'est une guitare qui a un diapason plus grand, et ça me permet de jouer beaucoup plus grave. Donc déjà là, il y a une sonorité qui est particulière, et je joue avec beaucoup moins de gains, je joue avec un son qui est beaucoup plus aigu et tranchant. Et du coup c'est vraiment des similitudes qu'on peut avoir, et du coup ça permet de dégager un effet hyper solide, parce qu'on a à peu près toutes les textures qui s'assemblent pour faire une unité sonore qui a comme si c'était une espèce d'entité avec plein de têtes, parce qu'il y a des faciès différents, il y a des couleurs sonores différentes qui ressortent. Et voilà, c'est ces deux sons qui se complètent, parce qu'elles sont à des endroits différents du spectre sonore, on va dire. Et dans Further, c'est vraiment quelque chose qui se traduit peut-être le plus de toutes les chansons de l'EP, je pense.
Vous avez un peu évoqué le studio, vous voulez développer comment vous avez travaillé pour mettre en boîte ce nouveau disque, de quelle manière, et puis est-ce que c'est un plaisir pour vous de passer par la case studio?
Oui, alors pour le coup, ouais, le studio c'était vraiment un gros plaisir. Pour cette EP, on a enregistré en fait une guitare, une batterie et une basse en même temps. Donc c'est limite du son live, finalement. La guitare de Pierre, elle a été enregistrée après. Et pareil pour les voix, on les a fait juste après. Ouais, c'est allé relativement vite aussi, parce que vu qu'on a tout fait en une fois, En fait, on avait beaucoup répété avant, justement pour gagner du temps en studio. Et donc ça allait tout seul, quoi. Genre, on a enregistré direct tous les titres, quasiment.
Et l'idée de, c'est une question que je pose souvent, de fixer les morceaux à un instant T, ça, vous le vivez comment? C'est un aboutissement, c'est un peu un crève-cœur, sachant que peut-être sur scène après les morceaux vont un peu bouger, ou je sais pas, je pose la question en même temps, quoi.
Non, pas spécialement. Enfin, moi je trouve que c'est quand même une bonne finalité d'avoir un morceau fini, écoutable. Voilà, bien mixé, bien masterisé, bien joué aussi surtout.
C'est ça, et puis après, alors certes, quoi qu'il en soit, ce sera la version de référence que les gens entendront, même si a posteriori, il y aura des idées d'arrangement, ah, j'aurais pu faire ça, ça aurait été 15 fois mieux. Mais ceci dit, ça, rien ne nous empêche de faire ces petites modifications en live, et c'est souvent ce qui se passe, on voit dans les groupes même très connus, on voit que au fur et à mesure, des fois même des années, il y a des petites choses qui sont modifiées en live parce que le groupe a jugé bon de faire ça mieux. Et de toute façon, on avait pas mal pour l'idée d'enregistrer de sortir des sons qui ont été pris en live. Donc au pire, on pourra se rattraper en sortant ces titres-là en live, quoi. Parce que voilà, Needles, c'est vraiment un groupe qui a été aussi créé pour la scène, de par son ambiance et aussi la manière dont on a enregistré. C'est-à-dire que comme disait Dorian, la batterie, la basse et la guitare de Dorian ont été enregistrées en une prise dans la même salle pour vraiment faire ressortir ce côté brut et live. Donc voilà.
Hugo, tu veux dire un mot sur ton expérience du studio?
J'ai détesté. Non, je rigole. Non, c'était très cool. Ça faisait. Pour moi, c'est un peu un défi. Ça a été un peu un défi aussi parce que, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, mais de base je viens pas de cette sphère musicale, je suis plus funk de base et enfin, bah, par exemple, moi je joue beaucoup au doigt, là au service de la musique, quoi, faut jouer au plectre, au médiator, donc là le petit bout de plastique triangle pour gratter les cordes. Et c'est une autre, enfin, pour rester dans le temps et comment, oui, surtout pour rester en rythme et dans le temps, c'est un autre boulot. Et du coup, moi j'avais peur de ça un peu. D'ailleurs, là sur le morceau qu'on a écouté, Further, à chaque fin de morceau, j'avais une crampe au bras. Enfin, l'avant-bras, parce que c'est là maintenant ça va mieux parce que je suis plus habitué à jouer au médiator, mais voilà, moi je, en vrai, j'étais content d'avoir relevé ce petit défi perso et de me dire que bah ça sonne, quoi. Voilà.
Vous voulez ajouter quelque chose sur le studio? On poursuit dans la découverte du nouvel album, donc du nouveau disque qui s'appelle Crash, et donc on écoute un troisième titre, et donc c'est Needle sur Radio Canu.
Crash away.
Seattle avec donc le troisième titre du disque Crash qui va sortir en partir de septembre, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc c'est le titre ?
Éponyme, le titre s'appelle Crash.
D'accord. Vous voulez dire un mot sur ce titre ?
Ouais, celui-là c'était, je pense, le plus gros défouloir que j'ai pu faire en studio. Sachant que la voix, pour le coup, je crois que c'était une one take, hein, la voix, on l'a fait en un coup.
À peu près, oui.
Ouais, donc c'était vachement rigolo. Et puis en plus, je me disais, par rapport à l'ancienne EP qui est déjà existant d'ailleurs, l'ancienne EP qui est là, ça, je me disais que ça manquait justement d'un morceau qui avait vraiment la rage. Et celui-là, pour le coup, c'est juste de comment dire, c'est un cassage de gueule, quoi. Clairement, même pour les cordes, genre quand j'ai gratté ce riff, je pense que j'étais à deux doigts de péter ma corde. Mais voilà, c'était ce titre-là, donc c'est juste un énorme défouloir. Et
je pense qu'on peut parler des paroles parce qu'elles sont vraiment intéressantes. C'est vas-y, raconte.
Ouais. Si tu veux traduire d'ailleurs.
Je sais pas, mais globalement, c'est l'autopsie d'un accident, c'est ça ?
C'est quasiment ça. En gros, c'est c'est un côté un peu. Comment on appelle ça ? Genre, t'as des envies de meurtre, mais tu le fais pas. Je sais plus comment ça s'appelle.
Des pulsions, des fantasmes, je sais pas. Non.
Ouais, enfin, en gros, en fait, là, le sujet, je me suis mis dans la peau d'un mec qui avait un peu la haine de son patron, parce que son patron, c'est une énorme pince, que c'est le pire gars sur Terre. Et, bah, par exemple, ça parle des sujets un peu écolo aussi en ce moment. C'est, par exemple, les voyages en jet qui se font à travers la France par les gens qui sont un petit peu trop riches. Et en fait, c'est un peu... une manière d'expulser cette haine, parce qu'ils le savent, mais ils font rien, et en plus ils en profitent. Donc ça parle un petit peu de ça aussi. Et du coup, on leur demande dans le refrain, je dis crash away. Donc en gros, c'est prends ton jet et va disparaître ailleurs.
Enfin, crash away, c'est vrai. Va t'écraser.
Voilà.
Voilà,
c'est ça. Donc voilà, embauchez-moi. J'adore mes patrons.
C'est vrai que là...
Et Pierre et Hugo voulaient dire une chose, un mot sur votre partie musicale sur ce morceau aussi.
Moi effectivement, je pense que cette chanson est un défouloir pour tout le monde. Hein, y a pas trop de secret là-dessus. Et moi, alors c'est très très étonnant, mais par rapport au rythme de batterie initial, moi, ça peut peut-être pas se ressentir, mais j'ai un peu une atmosphère un peu zouk qui sort de ce morceau. Et voilà, j'espère que les auditeurs qui ont écouté ce titre, des fois, ressentent un petit peu cet esprit zouk. Mais
faudrait que je réécoute le morceau.
Ouais. Et voilà, c'est tout pour moi.
C'est dans le riff, ça fait tout, ta, tout, tout, ta, tout, tout, ta, tout.
Pour moi, ce Hugo, morceau, donc... c'est le morceau en live où en général, il arrive au milieu du live et c'est le morceau où je fais n'importe quoi. Je sais que c'est le morceau justement où je me défoule le plus. L'autre fois au farmer,
le farmer.
Voilà, j'ai passé ma basse au public, machin. Je fais jouer les gens. Je fais n'importe quoi et voilà. Il faut faire. Je les rejoins sur les parties communes où il faut être ensemble, mais quand il y a quand même de la place pour faire du bordel, du bruit et voilà. Et en général, à la fin de celui-là, j'ai mal au cou. Voilà.
Et donc, t'as un peu répondu à la question, mais les morceaux qu'on écoute depuis le début de l'émission, vous les présentez, vous les jouez déjà sur scène ?
C'est ça, oui, on les joue, ils sont déjà prêts en live, on a déjà eu l'occasion de les tester, et... ouais, le set est prêt, ouais.
De manière générale, quand on est en répète, et surtout dès qu'on se rend compte qu'il y a un morceau qui tient la route et qu'on est capable de jouer... avec, en mettant de l'énergie et sans forcément se poser de questions, où on est laisse techniquement, on se pose pas de questions, on le joue en live aussitôt que possible, quoi. Parce que de toute façon, c'est en jouant, c'est pas simple parce que parce qu'on n'est pas non plus les, on n'a pas forcément énormément de temps pour booker des dates et tout ça et pour le programme de choses, parce que c'est vraiment un métier à part entière. Et quand on est musicien indépendant en 2024, il faut vraiment avoir plusieurs casquettes et plusieurs métiers, notamment suite commerciale. Mais du coup, tout ça pour dire que, attendez, je vais essayer de meubler les choses parce que j'ai à peu près perdu mon fil conducteur. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, voilà, l'intérêt, c'est que, et ce qui marche le plus, c'est quand même de faire le plus de concerts possible, et c'est là qu'on peut faire la promotion des morceaux et de vraiment transmettre l'énergie à leur état brut et ce qu'on veut transmettre dans les morceaux, pour que les gens puissent se dire, ah, j'ai envie d'écouter le P de ce groupe, quoi. Donc voilà.
Votre set dure combien de temps?
Une quarantaine de minutes.
Ouais. D'accord. Donc
bien, 45.
Vous jouez encore on va écouter à la fin de l'émission les morceaux du premier disque. Vous les jouez toujours?
Oui, tout à fait.
Hugo a un peu répondu, mais donc tu sembles dire, Hugo, qu'il y a quand même de la place pour l'improvisation dans votre musique sur scène. On peut faire tu disais entre guillemets que tu faisais n'importe quoi. Il y a des plages où vous pouvez partir un peu.
C'est ça. On a toujours. Je pense qu'on, à force de jouer ensemble, on se connaît et on sait qu'on peut improviser à certains endroits. On sait quelle est la partie essentielle des morceaux à laquelle il faut pas toucher pour pas improviser tout le temps, quoi. Mmh.
Voilà, il faut que ce soit un défouloir organisé, dans le sens où l'intérêt aussi de la musique qu'on fait, c'est que c'est pas des riffs qui sont très compliqués où il y a non plus énormément d'informations, c'est des choses qui sont droites, un peu syncopées, efficaces, et du coup ces parties-là, elles ont aussi besoin d'être exécutées de la manière la plus propre et en homorythmie possible sur scène. Donc il y a des moments où on sait qu'il faut être cadré, et il y a d'autres moments où on sait que ça peut être l'anarchie, quoi. Il y a ça aussi.
Pour arriver à ce résultat là il y a beaucoup de travail en amont, en répétition. Vous n'arrivez pas les mains dans les poches sur scène, j'imagine, quoi.
Non, on répète quand même. Il y a eu une période où on répétait vraiment régulièrement, pour le coup. L'année dernière, on a fait pas mal de scènes. Même quand on a commencé, d'ailleurs, hein, on avait commencé avec beaucoup de choses.
Non, pour un groupe qui démarrait, on a commencé à faire tout de suite beaucoup de concerts, de par le fait que notre musique était simple et efficace et qu'on pouvait y aller, quoi.
Ouais. Et donc, vu que ça s'apprenait vite et que tout le monde est très très fort dans le groupe, sûrement plus fort que moi, sur beaucoup de points, je pense que, c'était adapté en tout cas pour que ça file droit, quoi.
Et donc vous, sur scène, vous ressentez du plaisir?
Ouais, beaucoup, dans le plaisir.
Mais il y a des artistes qui me disent que, par contre, pour arriver à ressentir du plaisir sur scène, faut forcer. Je reviens à ce que je viens de dire, mais il y a un instant, mais il faut beaucoup travailler, quoi.
C'est sûr que ça, c'est une mentalité que moi je partage, c'est que pour ne plus avoir à se poser de questions ou à appréhender la scène, en fait, il faut être au-dessus de sa marge, en dessous de la marge de la limite technique, quoi. Il faut être à l'aise techniquement et ne plus avoir à se poser de questions. Et à partir du moment où c'est la mémoire musculaire qui prend le dessus, c'est là qu'on peut vraiment apprécier le moment et le partager avec le public, quoi. Parce qu'il y a ça aussi. Parce que je sais que moi, j'ai fait partie des groupes, de groupes, où par exemple, c'était moi plus le compositeur, où c'était des parties qui étaient à 70-80% de mes capacités techniques. Moi j'adore, c'est super, et surtout que moi ça me met des challenges, mais dans ce cas là j'ai plus les yeux rivés sur le manche, et du coup ça me demande d'être plus concentré sur ce que je fais, et il y a moins ce côté vraiment scène et échange avec le public, échange de regard, tout ça, genre, et le mode défouloir, quoi. On l'a tous travaillé en amont, et pas que pour le groupe, hein. On a tous travaillé depuis plusieurs années là-dessus pour pouvoir ne souffler sur scène.
Oui, et puis c'était une chanteuse qui fait pas aussi du tout de musique, qui m'avait dit, qui fait de la chanson française, qui m'avait dit, oui, enfin, le résultat, c'est pas forcément la répétition de la veille ou de l'avant-veille, c'est tout le background, tout le travail qu'il y a eu pendant des années.
Bien sûr.
Ah oui, c'est sûr, il faut beaucoup s'entraîner avant quand même.
Il faut avoir la bouteille, c'est ça. Ouais, ouais. C'est...
On poursuit, donc je rappelle que c'est Needle et on écoute un quatrième morceau du disque Crash qui est à sortir. Needle sur Radio Canyon. Sur Radio Canyon avec le quatrième titre du disque Crash qui est à sortir à partir du mois de septembre de cette année. Un mot sur ce titre.
Ce titre s'appelle Orpheus et voilà, c'est bon, c'est personnellement je pense mon préféré du morceau parce que dessus on a vraiment pu développer quelque chose qui caractérise quand même un petit peu la musique de Needle, c'est que on a des parties de chœur et d'harmonie vocale qui sont développées et vraiment mis en avant, surtout sur les refrains. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup du milieu de la musique vocale, quoi. Donc, voilà, c'est moi, bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce morceau.
Dorian, Hugo, vous voulez dire ajouter quelque chose sur ce titre?
Ouais, alors ce titre il me tient énormément à cœur parce que c'est l'un des plus vieux que j'ai composé aussi. En soi, il a en réalité, je pense que la première version de ce morceau qui est sortie officieusement sur YouTube il y a avant d'avoir le groupe. Date de il y a au moins 4 ans. Et donc je l'ai écrit ouais, il y a un petit moment déjà. Et voilà, c'est pour ça qu'il me tient à cœur en fait, et je suis très très content de sa sonorité aujourd'hui par rapport à avant en tout cas. Honnêtement, j'ai senti l'évolution musicale grâce au groupe et je suis très content de ça.
Hugo, tu veux dire un mot sur ce...
Bah, justement, je crois que... Enfin, on n'avait même pas fait le groupe encore, et c'est moi qui avais fait la basse sur cette version à l'époque. Je m'en rappelle, oui. Mm. Je me rappelle, on avait même fait l'outro du premier EP, je crois.
Oui.
Ensemble.
Oui, oui.
Voilà, cette période-là, c'était après le Covid, non?
Ah, c'était...
Je sais plus.
C'était
pendant.
C'était pendant, ouais.
Pendant,
ouais. Mm. Ouais, l'été 2020.
C'est ça, je crois bien.
C'est vraiment l'été où j'ai passé ma vie sur la guitare, pour le coup.
Il y en a qui n'ont rien à faire.
Il y en a qui n'ont rien à faire.
Pendant le Covid, pendant les confinements et tout. Mais c'est bien d'avoir fait de la musique, en tout cas, d'avoir fait composer des morceaux.
Mmh. Tout à fait. Puis ouais, bah du coup, ce morceau, ça se base sur donc le mythe d'Orphée. Et j'espère que je ne me trompe pas, parce que... j'ai entendu cette histoire, en fait, c'est par rapport à la mythologie grecque. Et donc, pour moi, le sujet, c'était un petit peu la... Comment dire? C'est une relation un petit peu perdue entre deux personnes. C'est le personnage de cette histoire essaye de récupérer sa bien-aimée des enfers. Il lui demande de pas regarder en arrière parce que sinon elle va replonger dans le délire. Et en fait, juste en arrivant à la sortie des enfers, la sortie de ce tunnel, elle regarde en arrière, juste devant la sortie, et pouf, disparue. Voilà. Et c'est pour ça, bah, le morceau est un peu triste en vrai. Même tous les sujets sont pas forcément. Tous les sujets de l'EP sont pas forcément hyper, hyper joyeux. Mais. Moi personnellement c'est des sujets qui m'inspirent aussi, donc voilà, le morceau parle de cette histoire.
Promis, le titre d'après on fera une reprise de J'aime la galette.
Le temps avance, on va prendre nos précautions pour écouter tous les titres et puis écouter aussi un titre, revenir à un titre du premier disque. Donc on va écouter le morceau qui clôt le disque à sortir, qui s'appelle Crash. Donc c'est le cinquième titre, pardon, et c'est Needle sur Radio Canu.
Yeah.
Needle, donc sur Radio Canu, avec le titre qui clôt leur disque à sortir, qui va s'appeler Crash, et donc c'était le titre
The Glass.
The Glass, tout à fait.
Vous voulez dire un mot sur ce morceau, pourquoi l'avoir choisi pour finir clore l'opus?
Alors, ce morceau, pour moi, ça a été une des meilleures compos, enfin, personnellement, c'est ma grande inspiration là, de Stepé. C'est mon morceau préféré. Et donc c'est celui-ci qu'on a choisi aussi pour le futur clip qu'on est en train de mettre en place, donc qu'on aimerait tourner au mois de mars, que l'on va tourner au mois de mars. Et donc pour pouvoir faire ça, on a mis en place aussi un crowdfunding qui va être en ligne dans très peu de temps, où tout le monde pourra participer, donc tout sera sur Facebook, sur Instagram, etc. Voilà, et donc ce titre, en fait, chercher un... Ça parle plutôt de chercher un but, chercher une personne, et que en fait, on la voit, mais on peut pas forcément l'atteindre. C'est inspiré aussi de un petit peu de Alice au Pays des Merveilles, parce que le miroir, et qu'on aimerait voir à travers plutôt que de voir un reflet. Donc voilà, ce morceau est un petit peu mystique, mais il regroupe un petit peu tout le mood de Stepé.
On va se quitter sur un dernier morceau du premier disque, mais avant, donc tu l'as un peu dit, pour vous trouver sur les réseaux sociaux, pour écouter votre musique, il y a le premier disque qui est disponible d'ores et déjà, enfin qui est disponible sur les plateformes, il me semble.
Oui, bien sûr.
Sur toutes les plateformes, et puis sur les réseaux sociaux, comment on vous trouve. Je prononce Needle depuis le début de l'émission, mais il faut peut-être préciser l'orthographe aussi du groupe.
Donc c'est N-E-D-L. Voilà, Needle.
Et sur Instagram, vous tapez Needle Band, enfin Needle Band, B-A-N-D 69. Et normalement, vous tombez sur notre page.
Voilà.
Et vous êtes disponible sur toutes les plateformes de streaming, c'est ça?
Bien sûr, Spotify,
Deezer, voilà.
Ouais, même Apple Music si vous voulez.
Vous voulez dire un mot avant qu'on se quitte sur un dernier morceau?
Eh ben oui, dédicace à Maxime.
Ouais, effectivement, hein. Bisous Max.
Bisous Max. Merci à Maé de nous avoir fait ce master. Merci à Gégé de nous avoir enregistré dans son studio l'année dernière. Et ben on espère voir tout le monde très vite sur YouTube et en live surtout. Voilà.
Et à la bonne heure et qu'à cela ne tienne.
C'était musique, etc. Première partie avec Needle. Merci beaucoup Needle et à très bientôt. Et on
Merci.
Se quitte sur un dernier morceau qui va partir dans un instant. Voilà, c'était musique, etc. Première partie avec Needle. Je vous envoie un petit bout de l'identifiant de l'émission. Dans un instant, on se retrouve avec le groupe Meurtrière qui va nous présenter son album Ronde de nuit. Dans un instant après, un bout de générique.